Et voilà, Onde Noire, deuxième partie, toujours sur Agora FM. Et je vais commencer par vous emmener au fin fond des États-Unis, en Caroline du Sud, pour un magnifique livre qui s'appelle « Le chant de la Tamassie ». C'est un livre de Ron Rash. Il est publié récemment aux éditions du Seuil. Et c'est un livre traduit par Isabelle Reynarez. Le chant, je précise, c'est le chant comme chanter. Et celui que nous compte ici magnifiquement, encore une fois, l'écrivain américain, c'est une mélopée très sombre, au tempo, on va dire, souvent chaotique. Chaotique, comme les flots bouillonnants de cette rivière, puisque la Tamassie, c'est une rivière, c'est la dernière indomptée de la Caroline du Sud, peut-être aussi de la Géorgie, parce que c'est ce qui dessine la frontière entre ces deux États. Ou bien chaotique comme les sentiments exacerbés des personnages qui vont se croiser, se côtoyer, se déchirer autour de ce cours d'eau. Alors, pour donner un petit peu une idée de l'histoire, l'un des personnages principaux, c'est Maggie Glenn, c'est une journaliste. Elle est envoyée dans ce coin perdu dont elle est originaire, c'est pour ça qu'elle est envoyée, parce qu'elle connaît bien les gens et l'environnement. Elle est envoyée pour suivre le tragique face-à-face, un affrontement violent et sordide aux enjeux très importants. D'un côté, les parents d'une petite fille qui a été emportée par la rivière, ils étaient en vacances, ils pique-niquaient et elle s'est approchée trop près du bord. Et ses parents veulent absolument retrouver le corps, et veulent détourner donc le flot de la rivière pour exhumer le corps de leur enfant. Et évidemment, de l'autre côté, il y a les défenseurs acharnés de ce coin sauvage qui savent que si on accepte cette première atteinte à leur nature, ça ne sera que le premier pas vers des bouleversements dictés en gros par le fric et le profit.
Ça revient souvent, ce thème.
Oui, effectivement, tu vas voir, on va en reparler. Ici, dans ce roman, tout est métaphore. La fillette qui bascule dans l'eau, et c'est tout l'environnement qui est déséquilibré. Et quand je parle d'environnement, c'est aussi bien la nature que l'environnement humain. Dans ce coin, il y avait une fragile entente entre ceux qui œuvrent pour la défense des espaces sauvages, pour que cette rivière, s'écoule librement. Il y a aussi de même côté les anciens, qui savent bien, eux, depuis des générations, qu'on ne peut pas impunément endiguer ces flots et détourner la rivière. Et puis, de l'autre côté, il y a les exploitants, ceux qui ont aussi un savoir, ils savent qu'aménager pour le tourisme, pour le développement d'une industrie. Ben, en gros, c'est de l'argent qui rentre et on s'en fiche un peu des êtres humains qu'on peut écraser à ce moment-là. L'habileté, la finesse de Ron Rash, c'est de mettre les parents éplorés, qui ont le désir pour le lecteur et pour tout le monde, le désir bien légitime de faire leur deuil. Eh bien, ils sont du même côté que les exploiteurs. Et donc, il se positionne, l'auteur, ni dans l'ombre, ni dans la lumière, mais il raconte en gros avec talent les contradictions de l'âme humaine. Alors, j'ai parlé de déséquilibre, on va suivre en même temps celui qui arrive dans la tête de la narratrice Maggie, pour qui le fait de revenir dans ce pays, ben, ça va être un bouleversement total. Elle aussi, constamment, entre ses souvenirs douloureux, ses amours présents, ses amours passés, et puis, surtout, les relations houleuses avec son père. En gros, pour terminer, tous pourront-ils sortir de la lame de fond qui les entraîne et revenir vers des eaux plus limpides et calmes. Alors, pour situer un peu ce roman, je vais citer une phrase de ce récit. Combien de temps faut-il pour que ce paysage se trouve intériorisé, se transmette de génération en génération ? Tout comme le groupe sanguin ou la couleur des yeux. Et donc, c'est une phrase que je viens de lire dans ce roman, qui est le deuxième de Ron Rash, le dernier traduit, mais c'est son deuxième.
Chronologiquement.
Et je trouve que cette phrase, elle semble être carrément le projet d'écriture de cet écrivain, que nous avions découvert avec enthousiasme. C'était la traduction de ce premier roman, ça fait déjà 7 ans, hein, c'était en 2009. Ce livre s'appelle « Un pied au paradis ». Dans les récits de Ron Rash, en effet, la terre, la nature, souvent hostile, souvent violente, elle est complètement indissociable du destin de ses personnages. Destin d'ailleurs souvent aussi aride et tourmenté que leur environnement. Environnement souvent blessé, tu l'as dit, hein, c'est une constante, souvent blessé, meurtri par des promoteurs avides et cupides. Dans ce livre, il est question de requins, de cafards. Et ces requins, ces cafards s'attaquent en fait autant à la terre qu'aux plus démunis de ses habitants. Et Le Chant de la Tamassie, ce dernier roman, c'est comme tous les autres livres de Ron Rash, une ode tant aux paysages qu'il connaît si bien, qu'aux êtres humains qui y sont, qu'il comprend si bien. Voilà, donc je vais répéter, ça s'appelle Le Chant de la Tamassie, aux éditions du Seuil, ça vient de sortir il y a très peu de temps, et c'est, je crois, très bien traduit par Isabelle Reynarez. Jacques, on va
rester aux États-Unis, mais dans une ambiance, pas côte ouest et côte est, mais disons dans une ambiance, disons, plus citadine.
Or donc,
c'est un roman, un livre, disons, de Owen Fitzstephen, qui s'appelle Le Dossier Ahmet, qui est paru chez Rivage Noir, et qui est traduit comme il se doit par la grande spécialiste de Dashiell Hammett, qui est Nathalie Benin.
Et donc, je précise que c'est un inédit, je crois.
C'est un inédit,
c'est un inédit, parce que souvent, les Rivages Noirs sont...
Non, il est publié en poche, mais c'est un inédit. En fait, c'est un roman étrange dont je vais parler. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est...
Oui, tu as hésité sur le
roman. Je ne sais même pas si c'est vraiment un roman. Ou de fausses mémoires. Ou peut-être de vrais récits autobiographiques. Un vrai récit autobiographique du grand Dashiell Hammett.
Une énigme dans l'énigme.
En quelque sorte. Alors l'ambiguïté commence dès le nom de l'auteur. Sur la couverture, il est indiqué, comme je vous l'ai dit, Owen Fitzstephen. Et dans le copyright, sur la troisième page, c'est Gordon McAlpin. Le doute va... Ça s'expliquera à la fin, quand même.
Oui, mais il y a
le doute
une consonance anglo-saxonne.
Oui, de toute façon, bien sûr. Oui.
L'Écosse.
Non, c'est des Américains. Le doute va subsister de façon plus ou moins forte jusqu'à la dernière ligne de ce roman. Le titre original, d'ailleurs, Ahmet Unwritten, enfonce encore un petit peu plus le...
Unwritten, donc comme non écrit.
Non écrit, voilà. Le clou de l'ambiguïté, si je dose dire. Le récit commence et finit, d'ailleurs, à la Saint-Sylvestre 1959. Dashiell Hammett rentre dans une maison de Long Island avec un .38 dans la poche. Point de suspension, enfin du moins pour moi, je ne vous en dis pas plus. Mais en fait, ce récit couvre une période qui va de 1933 à justement cette année 59, qui est d'ailleurs une pas mauvaise année. L'auteur tente de trouver une explication, que tout le monde a cherché, au manque d'inspiration de Hammett, qui, après son cinquième roman, L'Introuvable, The Thin Man, il n'a plus jamais écrit de roman, ni de nouvelle d'ailleurs pratiquement. Alors on a donc une série de 7 fragments de vie d'Hammett, plus ou moins romancés, précédés à chaque fois d'une coupure de presse du Times Magazine. 7 fragments, 7 rencontres avec des personnages célèbres réels, John Huston, Rita Hayworth, le sinistre sénateur McCarthy, entre autres. Mais aussi, et dans le même temps, dans chacun de ces fragments donc, des rencontres avec les personnages du film et du roman Le Faucon Maltais. Et du coup, Hammett s'appelle tantôt Dashiell, tantôt pratiquement dans la même phrase ou dans la phrase suivante, Sam Spade. Et ses interlocuteurs sont tour à tour les personnages du roman, du film, et les personnages supposés réels qui auraient inspiré à Hammett cette histoire du Faucon Maltais.
Alors, si on était des vrais littérateurs, on dirait une mise en abîme.
Ben voilà, je le dirai probablement un peu plus tard. Donc en fait, Brigitte O'Shaughnessy.
T'as pas choisi les noms les plus faciles, hein.
Devient Moira O'Shea, ou le contraire. Mike Thatcher devient Mike Arnett, qui était son véritable partenaire quand il était chez Pinkerton. On croisera aussi, au détour d'une page, Maria Storr, Peter Lorre, et la belle secrétaire de Spade, Effie. Et son personnage, son vrai personnage.
Donc tout ça, c'est des acteurs qui jouaient dans le film de John Huston.
Non, en fait, c'est aussi les acteurs qui jouaient dans le film de Johnson, mais c'est aussi les personnages du roman et du film. C'est très, très...
Imbriqué,
abîmesque. Si beaucoup question d'un fameux oiseau noir. Un fameux oiseau noir au pouvoir supposé magique. Alors, est-ce celui du roman? Est-ce celui du film? Est-ce encore un autre? Le tout, en fait, tu le disais, dans une mise en abîme littéraire parfaitement orchestrée par l'auteur. Gordon McAlpin, donc.
Mais non, tu as dit que c'était Owen...
Fitzstephen. Eh bien, vous verrez pourquoi. C'est brillant, et le lecteur se délecte, en fait, à se laisser mener par Owen Fitzstephen, tu vois, qui utilise une histoire prétendue vraie de Dashiell Hammett, étayée par des... Par contre, de réels épisodes de sa vie.
Avec des vrais morceaux de vie dedans.
Voilà, c'est un très bel exercice littéraire qui rend hommage donc à cet inventeur du roman noir. Mais ce n'est pas juste un exercice, une œuvre purement intellectuelle, un jeu d'esprit, car c'est parfaitement documenté, c'est écrit de façon très fine et très alerte. Non, sans un certain suspense d'ailleurs. Du coup, mes points de suspension tout à l'heure, je ne vous ai rien dit. Et bon, en fait, en gros, je vais vous dire, ça se lit comme un polar. C'est simple, comme on dirait nos amis de la télévision ou de la radio pendant les périodes d'été. Et en fait, une seule question. Et si ce fameux faucon existait vraiment?
On a parlé d'oiseaux, mais voilà, c'est un faucon.
Faucon de Malte. Petit nota bene pour les amis collectionneurs ou les amateurs de polar. Ce dossier Hammett est le numéro 999 dans la collection Rivage Noir. Le 1000 arrive donc bientôt.
Ben, il faut dire que nous sommes dans l'année, voilà, on est en 2016 et les éditions Rivage fêtent leurs 30 ans. Donc je ne pense pas que ce soit un hasard que un roman sur Dashiell Hammett sorte en 2016. Alors une petite précision, on a l'impression qu'il faut tout savoir sur Dashiell Hammett, le Sam Spade et le Faucon Maltais pour lire ce roman, roman.
Pas du tout, par contre, ça vous donnera envie de lire et de revoir ce que j'ai fait d'ailleurs, le film Le Faucon Maltais, parce que voilà, pour essayer d'attraper des petits indices, mais en fait ça se lit très bien, même si on n'a jamais lu de Dashiell Hammett. Si on en a lu, ça donnera un petit piment en plus.
Voilà, je crois que tu nous as préparé une musique qui est un peu en écho.
Eh bien oui, j'étais tenté de mettre Bye Bye Blackbird dans la version de John Coltrane. Mais bon, c'est du jazz et on prétend être l'émission polar la plus rock de la bonne FM. Donc, on va mettre du rock ou quelque chose qui s'en rapproche. Une chanson qui s'appelle Blackbird, qui est une composition très ancienne déjà de Paul McCartney. Mais cette version que nous avons écoutée a été enregistrée à Marseille en juin 2015. Blackbird, Paul McCartney.
Je rappelle que le Faucon Maltais est émaillé et donc c'est un Blackbird.
Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All of your life, you've long been waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night.
Et voilà, c'était Blackbird. Et si tu viens d'évoquer un des plus célèbres films noirs américains, Le Faucon Maltais, moi je veux aussi en évoquer un en vous parlant du dernier roman d'Andrea Camilleri qui est sorti en début d'année chez Fleuve Noir. C'est un livre qui s'appelle « Jeux de miroir » et comme la plupart, la grande majorité des romans d'Andrea Camilleri, il est traduit par Serge Quadrupagny. Quand je parle d'Andrea Camilleri, on pense tout de suite, tout au moins les habitués pensent au commissaire Montalbano. Évidemment, c'est lui qui nous revient ici. Et l'on est toujours étonné que la plume de cet auteur italien, qui va avoir 91 ans cette année quand même, soit toujours aussi prolixe. Alors certes, ce roman a 2-3 ans, mais il avait quand même 87 ou 88 ans. Les habitués retrouveront tout ce qui fait le charme des enquêtes du commissaire sicilien. La personnalité du flic d'abord, gourmet, gourmand, de plus en plus semble-t-il, j'ai l'impression qu'il marche encore plus que d'habitude. Et puis, bougon, instinctif, amoureux, et depuis quelques épisodes, vieillissant. Quoique, là, ça se sent peut-être un petit peu moins. On va retrouver évidemment ses adjoints, sa fiancée génoise Livia, à qui il téléphone tous les soirs, avec qui il s'engueule copieusement tous les soirs. Et puis, l'inénarrable Cattarella, le calamiteux homme à tout faire du commissariat, celui qui emploie le talien, cette langue savoureuse entre italien et sicilien, et qui, dans son langage parfois hermétique, alors c'est vrai pour nous les Français dans la traduction, mais c'est vrai aussi pour les Italiens, c'est un langage qui est toujours haut en couleur, et c'est celui qui alerte Montalbano des coups de téléphone qui lui sont destinés au commissariat. Ici, dans ce roman, le commissaire va se retrouver empêtré dans une série d'actes délictueux. Fusillades, explosions, qui semblent bien être signées par des factions mafieuses. Et ça, d'habitude, Montalbano, c'est pas trop son truc quand même, la mafia.
Ouais, elle est toujours là, mais jamais,
voilà, là, elle
jamais
est quand
au
même,
devant.
Elle est quand même beaucoup plus. Et ces attentats semblent bien être mêlés à une très jolie et très mystérieuse jeune femme, Liliana, qui, comme par hasard, se retrouve être la voisine de Montalbano, pour qui il va, comment dire, allez, soyons, il va soupirer. Mais tout cela ne pourrait être que des écrans de fumée. Il va vite s'apercevoir que certains la tirent dans un labyrinthe de miroirs où tout n'est qu'apparence. Et quand je vous parlais d'un film noir américain, on pense tout de suite à Orson Welles dans La Dame de Shanghai. Et pour arriver à découvrir la vérité, il va falloir casser le miroir et passer derrière les miroirs.
Ceci dit, un titre qui aurait bien pu aller au précédent bouquin dont on a parlé d'ailleurs.
Jeu de miroir, oui. Dans ce roman, Camilleri sort donc un peu de ses intrigues classiques. Les fils sont, me semble-t-il, un peu plus emmêlés, les rebondissements plus nombreux.
Déjà dans le précédent.
Voilà, mais c'est un peu plus récent. C'est une bonne nouvelle, car si un lecteur suit attentivement, comme on le fait d'ailleurs, on est complètement accro.
Depuis 20 ans.
Depuis 20 ans, c'est le 19e roman autour du commissaire Montalbano qui est traduit en français. Et c'est vrai qu'on suit avec délectation la vie professionnelle, la vie privée du commissaire, le plus célèbre de Sicile. Celui qui suit tout ça attentivement, il va peut-être être un peu lassé de retrouver exactement les mêmes situations, les mêmes dialogues que dans les épisodes précédents, au mot près, en ce qui concerne des dialogues avec Cattarella. Mais lequel lecteur ne pourra jamais, jamais se lasser des pauses gastronomiques de ce fin gourmet, un solide appétit, et l'on salive, mais vraiment on salive, au plat de pasta, d'aubergine, et dans cet épisode particulièrement, des plats d'arancini. Alors, vous ne savez peut-être pas ce que c'est que vous, des arancini. Nous, on sait, parce qu'on a été en Sicile. Je vais vous dire une chose, il y a deux manières. Soit vous allez en Sicile, soit vous lisez le dernier roman d'Andrea Camilleri. Donc, ça s'appelle « Jeux de miroir ». Et c'est, comme toujours, les aventures du commissaire Montalbano, publié aux éditions Fleuve Noir. Voilà, il est temps de se dire au revoir, de vous dire...
Chacun dans son coin.
Avec un bon bouquin.
Et on vous laisse avec les informations sur Agora Côte d'Azur.